Agriculteur, 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 agriculteur.
Voici Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de faire le tour de la ferme, on va faire une présentation. Alors,
moi, je suis Pierre-Yves Ambal, je suis originaire d'ici. J'ai un peu voyagé et puis je suis revenu me poser sur ce terrain dans l'idée au départ de m'installer en agricole et puis que si ça marchait pas, j'avais toujours la possibilité d'avoir ce terrain pour autoproduire mon alimentation notamment. Quoi.
Pourquoi l'agriculture ?
Parce que c'est un truc qui me tient depuis tout petit. Mes grands-parents étaient paysans, mon oncle qui est à la retraite depuis une dizaine d'années l'était aussi. Je voulais reprendre la ferme, bon ça s'est pas fait comme ça, c'est pas grave, ça a toujours été quelque chose qui m'a tenu à cœur. Je suis passé par d'autres chemins, j'ai eu des désillusions et puis je suis revenu et finalement j'y suis bien quoi.
C'est un terrain familial ou pas ?
Non, c'est un terrain que j'ai acheté il y a 9 ans maintenant.
Sur combien d'hectares ?
Là ici il y a 3 hectares et demi en propriété. Et on me prête un hectare juste en face pour faire de la céréale pour nourrir les poules.
D'accord, donc en polyculture ?
Polyculture élevage. L'activité principale ici, c'est les poules pondeuses, que je vais décliner après sur de la vente de poules, de poulets vivants, et éventuellement de faire de la transformation des poulets, puisque l'objectif, c'est d'être autonome, donc de faire la reproduction et de ne pas être dépendant des éleveurs, des naisseurs pour les poussins.
Pas 100% autonome, mais non. Presque.
Non, l'autonomie à 100%, c'est, pour moi, c'est pas... De toute façon, l'autonomie, c'est quelque chose qui se fait en réseau. On ne peut pas être autonome seul. Mais après, oui, on travaille beaucoup sur l'autonomie sur la ferme. Donc, on n'est pas relié à l'EDF ni à l'eau. Pour l'électricité, donc, on a une station solaire, des panneaux photovoltaïques, des batteries. Et ensuite, pour l'eau, il y a une mare sur la ferme qui est alimentée par une source. Et on se sert de cette eau-là pour tout ce qui n'est pas usage potable.
Mais on peut commencer par, je ne sais pas, les poules, tiens, puisqu'on en parlait.
Poules, ouais,
oui.
Il faut traverser de l'autre côté.
Alors, j'ai vu en arrivant qu'il y avait un petit kiosque, là, libre-service, d'œufs. C'est assez original.
Alors, il y a une cahute d'honnêteté. Alors ça m'est venu parce que j'ai voyagé en Australie, notamment. Et ça se fait pas mal dans les pays anglo-saxons. C'est de proposer des produits à la vente sans qu'il y ait personne en fait. Et les gens viennent se servir, il y a une tirelire et ils payent.
Et ça se passe bien en général ?
Ça se passe très bien. Il n'y a jamais eu de vol, il y a eu des fois des erreurs ou des oublis, mais il y a un petit carnet de liaison et les gens peuvent laisser des mots. Donc ça marche plutôt bien. Donc ça permet pour nous de vendre des produits en continu et de ne pas être là en présence parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la ferme et qu'on ne peut pas tenir un point de vente H24 quoi.
D'accord, mais il n'y a pas que des œufs.
Il n'y a pas que des œufs. Là, on a des courgettes, on a les potimarrons qui arrivent. Et suivant les produits qu'on peut avoir un peu, on les y met, quoi.
Mais vous les voyez tout de même, les clients ?
À la radio, on ne verra pas, mais la cahute est en bord de route et la ferme est un peu plus bas. Il y a des haies d'arbres. Donc, suivant où on est sur la ferme, on voit ou pas qu'il y a des gens qui passent. Assez souvent, on ne les voit pas. C'est pour ça qu'il y a ce petit carnet de liaison aussi, pour que les gens laissent des mots, on peut leur répondre. Et puis comme on est aussi, je fais le marché samedi matin, donc il y a des clients qui viennent à la cahute, qu'on peut voir au marché, avec qui on peut discuter aussi.
C'est une super idée. Ouais, il faut penser à alimenter la cahute.
Ouais, il faut, de toute façon, assez régulièrement, on va voir s'il y a des œufs, s'il n'y en a plus. Et j'essaie d'en mettre toujours un stock assez important pour que tout ne soit pas pris en une fois.
Là, on change de champ, alors il faut expliquer un petit peu. Hein.
Le terrain, en fait, qui fait 3 hectares et demi, est partagé grosso modo en deux par une grande haie de peupliers, avec d'autres arbres d'ailleurs, il y a des frênes aussi. Donc il y a un côté qui est plutôt sur la partie culture végétale, donc le jardin, un gros jardin on va dire, et l'autre côté où c'est la partie animale. Donc là, on a les poules, il y a encore quelques brebis, mais je vais arrêter. Parce que c'est compliqué, ça ne respecte pas trop les clôtures. Et si on n'a pas des clôtures en béton, elles aiment bien aller faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas meilleur à côté. Quoi. Là, pour l'instant, j'arrête. Je vais arrêter, le temps de refaire des parcs propres.
Qu'est-ce que vous allez y mettre si vous n'avez plus de brebis ?
Ah ben, on a toujours, j'ai toujours 2 chevaux et un âne, donc ça c'est pour le loisir. Et eux vont entretenir en fait, les parcelles où il y a de l'herbe, et puis j'enfauche aussi pour faire du foin, pour les animaux, pour en vendre un petit peu.
Quand vous êtes installé, vu qu'il y a deux versants, oui, vous avez fait un choix d'un versant par rapport à l'autre pour y installer d'un côté les animaux, de l'autre le jardin potager?
Pas vraiment, ça s'est un peu fait au fur et à mesure, en y vivant en fait, en y étant quoi. Les poules, je les voulais de ce côté-là parce qu'on est sur un côté plus sud, plus orienté sud, alors que l'autre côté est plus orienté nord.
Voilà, c'est ça, il y avait quand même un choix.
Ouais, alors avant on avait un peu plus derrière parce qu'on a une mare qui est en contre-eau, donc ça permettait de faire de l'irrigation dans le jardin par gravité sans avoir besoin de pompe. Mais il se trouvait que c'était très entouré d'arbres, donc beaucoup d'ombre, et ça poussait pas très bien quoi. Et puis en plus les techniques de culture ont évolué au fil du temps parce que j'ai découvert des nouvelles choses, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais,
oui.
Mais du coup voilà, on s'est mis de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup plus de soleil. Et puis les poules, je les voulais plus de ce côté-là pour l'hiver en fait, parce que les poules aiment bien quand même quand les températures sont pas trop froides pour pondre. Donc l'hiver, l'avantage c'est que le soleil étant de ce côté-là, il tape sur les bâtiments. Donc quand il y a du soleil, ça réchauffe un peu, et voilà. Et l'été, il y a du soleil, mais on essaie de planter des arbres. C'est notamment pour ça aussi que je veux plus de brebis, parce que quand on essaie de planter des arbres, elles aiment bien les grignoter. Des poules pondeuses, là, j'avais refait le lot avec des poules, donc différentes races. C'est pas des races pures, c'est pas des races de ponte exclusives. C'est un peu quelque chose d'un peu plus rustique que la pondeuse industrielle, quoi. L'idée, c'est d'amener, de changer un peu ça. Et c'est pour ça que j'ai pris des coques de race, donc des Araucana notamment, qui font la particularité de cette race, c'est qu'elle fait des œufs verts. Et c'est les crème legbar qui font des œufs bleus. Donc, j'ai aussi un coq crème legbar. Et l'idée, c'est que le croisement en fait, issu d'un coq aux œufs verts ou bleus avec une poule qui n'a pas de couleur particulière va donner des poussins dont les poules feront des œufs bleus ou colorés. Et l'idée à terme, voilà, c'est ça, c'est de proposer à la vente des œufs un peu multicolores.
C'est juste la couleur de la coquille.
Ouais.
L'œuf à l'intérieur ne change absolument pas.
Ça ne change rien. C'est vraiment le processus en fait de fabrication de l'œuf dans la poule. Suivant les races, il y a des poules qui déposent en fait, on pourrait dire qu'elles peignent l'œuf en fait avant de le pondre. Et du coup, suivant les endroits géographiques d'où elles viennent, les milieux en fait étaient plus adaptés à avoir des œufs verts parce qu'ils se cachaient mieux dans l'environnement. Et pareil avec des œufs bleus. Enfin voilà. Et là pour l'instant, j'ai que ces races-là, mais je voudrais aussi mettre de la poule de Caussade qui fait des œufs tout blancs, elle, des coquilles blanches. Et des marans qui font des œufs chocolat, donc des œufs très foncés. Et pour essayer d'avoir vraiment un panel de couleurs, parce que là déjà on a quelques couleurs sympas, il y a des œufs un peu rosés, donc foncés mais pas autant que la marans. Et ouais, il y a déjà un petit panel de couleurs, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir le plus possible, parce que j'aime ça et puis que je trouve que c'est... Ça fait découvrir des choses aux gens aussi.
Alors, il faut souligner également que les bâtiments pour les poules sont fabriqués en matériaux naturels et revalorisés au maximum.
Et après, ouais, ici, on fait beaucoup récupération, bricolage. Donc là, en dessous droite, c'est une volière pour les poussins, pour les jeunes poussins. On va aller les voir. J'ai deux autres petites volières. Il y en a une où j'ai des lapins et l'autre où j'ai des poussins qui sont plus jeunes. Et ensuite, on a une caravane qui a été réaménagée en poussinière, où là, il y a des poussins qui ont quelques jours, une semaine. On les fait passer d'un côté à l'autre au fur et à mesure qu'ils grandissent. Parce que vraiment, l'objectif depuis le début, c'est vraiment d'essayer d'être autonome, de faire ses poussins, parce que il y a aussi, comme on parle pour les plantes, si on ressème ses graines, du coup, les plantes vont s'adapter au terroir. Ben, les animaux, c'est pareil, quoi. Et du coup, le fait de faire naître des poules ici et de faire une petite sélection et de les refaire naître tout le temps, elles vont s'adapter à ce territoire-là, à ce climat. Donc on aura des animaux qui seront plus résistants. On refait de la couture, entre guillemets, pour refermer les trous, et puis ça marche bien. Parce qu'en fait, j'avais des faucons qui nichaient dans les peupliers et qui venaient se servir chez les poussins. J'allais pas tuer les faucons parce que je les aime bien quand même. Ils ont plein de rôles positifs sur les rongeurs, tout ça, donc c'est intéressant. Donc, du coup, voilà, j'ai protégé le dessus de la volière.
Donc vous faites naître vos propres poussins.
Alors,
sans couveuse ?
C'est que des couvaisons naturelles. Là. J'ai eu une couvaison là, qui est partie chez ma mère parce que je voulais lancer quand même des œufs pour avoir des poules au printemps. Mais sinon, le reste des couvaisons, c'est que des poules qui ont couvé. Et c'était assez régulier, de temps en temps j'avais une ou deux poules qui se mettaient à couver, donc je les isole dans des clapiers à lapin, je leur mets des œufs à couver et Quand elles ont fini de couver, elles passent dans la grande poussinière, puis dans les volières, etc.
Ça se passe bien en général, cette couvaison naturelle ?
Ouais, bah, y a pas mieux, quoi, en fait. Hein. Mmh.
C'est parce que ça se fait de moins en moins.
Mais parce que l'inconvénient, c'est qu'on ne décide pas déjà quand la poule a envie de couver. Donc on ne peut pas programmer des naissances quand on veut. Et puis c'est limité, quoi. Une poule, là, moi, les poules, je leur mets 10 à 12 œufs maxi, suivant la taille de la poule, suivant la taille des œufs. Donc ben voilà, c'est limité dans la période et dans le nombre. Donc moi, ça m'a quand même vachement bien dépanné parce que j'ai à peu près 60-70 poules et j'en avais une à deux par mois qui se mettaient à couver quand même. J'ai au moins de quoi redémarrer au printemps avec quelques poules qui vont me pondre et puis plus la couvée là que j'ai mis où j'ai à peu près 90 œufs qui devraient donner des poussins, on verra. Je fais du métail pour les poules, donc le métail c'est un mélange céréales-légumineuses.
C'est plus que bio alors. Naturel, on va dire.
Ouais, même naturel, on n'y met rien quoi.
C'est relativement récent quand même cet élevage de poules.
Alors moi, ça fait 9 ans que j'ai acheté le terrain, il y a toujours eu quelques poules, j'ai fait un petit peu, puis il y a eu des hauts, des bas, parce que jusque-là, j'en vis pas à 100%, que je suis salarié agricole à côté, et un quart du temps en salarié, et le reste sur la ferme.
Agriculteur, agriculteur.
Nous continuons la visite de la ferme des Ailes du Quercy en compagnie de Pierre-Yves, une ferme en polyculture élevage autoconstruite et autonome. Une ferme étendue sur 3,5 hectares, une ferme qui comporte des pâturages pour les grands herbivores, des parcs pour les poules et de grandes volières pour les poussins. Si vous le voulez bien, je vous propose de continuer la visite. On a vu les petits poussins et les canards.
Alors ça, c'est des canards coureurs indiens pour lutter contre les limaces. C'est des canards qui volent pas apparemment. Alors c'est les premiers, j'avais acheté des œufs, il y avait une poule qui était glousse et qui voulait couver. Hop, j'ai mis les œufs dessous et puis on nous a sorti des canards.
Ouais, c'est sympa ça, je trouve.
Donc là, en fait, ici, là, on est dans la volière des plus grands. Donc ça, c'est une poule, c'est une mère, en fait. Hein. Après, vous avez des jeunes. On a des poules qui sont croisées. Donc le coq, là, clair, c'est un crème legbar. Lui, c'est un pur race, avec sa poulette qui est juste derrière lui. Tous les autres sont des croisés, vous voyez. Celui-là qui a des plumes aux pattes, un peu, parce que le crème legbar a des plumes aux pattes. Après, on a des poules qui sortent un peu comme la bleue, là, voilà. Enfin, c'est diversifié, c'est mélangé.
D'accord. Là, c'est pour les œufs, mais après, pour la chair.
Jusque-là, je ne faisais pas, en fait, parce que c'est trop contraignant d'avoir un labo, une salle d'abattage, tout ça, c'est trop d'investissement. Moi, je n'ai pas les moyens de faire ça. Donc, jusque-là, ben, je les vendais vivants, j'en s'en débrouillais. Mais comme ça va augmenter le nombre de poulets que je vais avoir, en fait, parce que quand je vais faire de la reproduction, forcément, on ne choisit pas le sexe des poussins qui sortent. Donc, les poules resteront ici pour de la ponte, le renouvellement des pondeuses, et éventuellement faire un peu de vente aussi de pondeuses, de jeunes pondeuses. Et les poulets, ben, il y en aura une partie qui partira pour des gens qui voudront se les élever pour se faire du poulet fermier, maison, quoi. Et sinon, l'autre partie, je pense que je vais la faire transformer à l'abattoir d'un super atelier, donc qui font abattage et transfo. Ils sortent des super produits. Et j'avais travaillé avec eux une fois sur de la poule de réforme pondeuse. Même avec des vieilles poules qui ne payent pas de mine, ils arrivent à faire des bons produits. Et l'autre avantage, c'est qu'on a du produit de conserve. Du coup, ben, moi j'y vais, je récupère mes conserves. Et je peux les stocker, même si je ne les vends pas de suite, elles sont là. Alors que quand on fait du poulet prêt à cuire, ben, il faut le vendre vite, quoi. Il faut avoir une clientèle. Ça demande plus de travail, je trouve, et c'est plus compliqué.
Les collectionneurs ?
Alors après, peut-être, mais pour l'instant, non, parce que là, c'est du croisé, donc ça n'intéressera pas des collectionneurs. Mais dès qu'il y aura de la poule de race, oui, là.
Et les restaurateurs ?
Et ouais, ben, j'ai pas encore exploré cette piste-là, quoi. À un moment, les restaurateurs me prenaient un peu des œufs. Ça s'était calmé parce que j'avais une baisse de ponte, donc ils avaient arrêté. Et puis bon, forcément, ils trouvent d'autres fournisseurs. Quand je serai bien au point sur la ponte et que j'aurai suffisamment d'œufs, je reproposerai, quoi. Il y a encore des choses à découvrir, à explorer.
Vous êtes en pleine recherche, ouais. Quoi.
Et puis, je pense que de toute façon, rien n'est jamais arrêté, quoi. On rencontre des gens, il y a des opportunités qui se présentent. Et puis voilà quoi, on peut changer d'avis, on peut orienter différemment la production. Là j'ai une idée à l'instant T, mais je sais pas comment ça sera dans 10 ans quoi.
Oui, un sacré boulot là, tout ce que vous avez fait là.
C'était un terrain nu que j'avais acheté au départ, et puis bon, Et petit à petit, voilà, on récupère des planches, des piquets à droite à gauche, on achète d'occasion, et puis voilà, ça avance à son rythme, mais ça avance.
Toujours en reportage aux ailes du Quercy, et nous continuons à visiter le poulailler de Pierre-Yves.
Oui, bon, il en a un petit peu. Les coques, les araucanas n'ont pas trop de queue, en fait.
Et leur particularité ?
C'est le fait de pondre des œufs verts.
Les périodes de ponte, c'est quoi ?
Pardon ?
Les périodes de ponte dans l'année ?
C'est plutôt au printemps. Ça pompe beaucoup au printemps. Ça va se calmer un peu l'été parce qu'il fait chaud. Ça reprend à l'automne. Mais après, ça dépend aussi de quand est née la poule. Parce qu'en fait, l'idée aussi de faire sa reproduction, c'est que je peux faire naître des poussins régulièrement. À terme, avoir des poules qui sont nées à différents stades, donc qui vont commencer à pondre à différents stades. Donc on peut à peu près réussir à lisser la production d'œufs, quoi. Agriculteur.
Nous allons retrouver Pierre-Yves sur sa ferme quasiment autonome, éleveur de poules pondeuses, mais aussi maraîcher amateur.
Alors c'est parti au départ d'une zone de culture où j'avais voulu faire des pommes de terre sous paille. Donc on met une grosse épaisseur de paille et sur cette zone il y a du suroyeble. Donc c'est une plante qui pousse par rhizome. Ça ressemble au suro, mais c'est annuel quoi, ça ressort tous les ans. Mais c'est très, très vigoureux. Et donc j'ai dit, je vais faire des patates sous paille, ça va nettoyer un peu le terrain, quoi. Puis en mettant une bonne épaisseur de paille, le sureau, il pourra pas sortir. Tintin. 40 cm de paille, ça lui a pas fait peur, quoi. Et j'avais des bâches d'étoiles tissées, de récup, là. Et j'ai dit, on va bâcher, quoi, tant pis. J'étais pas trop pour le plastique. Si j'occulte, forcément, là, avec de la bâche, il passera plus. Donc on a occulté, et puis on s'est rendu compte au printemps que du coup, la terre dessous... Elle était bien souple quand même, c'était agréable. Et puis j'ai découvert des vidéos sur la culture sur bâche, les MSV, ils appellent ça, donc maraîchage sur sol vivant. L'idée c'est d'amener un maximum de matière organique sur les parcelles pour nourrir le sol et pas la plante en fait. Parce que la plante se nourrit par le sol, mais il faut bien le nourrir le sol. Et donc en amenant beaucoup de matière organique, ça va ramener pleine vie du sol. L'appellation maraîchage sol vivant... peut déplaire à certains parce qu'il y en a qui vont se dire mais si on n'est pas là-dessus ça veut dire quoi que notre sol il est mort. Un sol est jamais mort de toute façon, on peut toujours le régénérer, lui ramener des choses. Mais là l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum de vie du sol, un maximum d'humus, donc de matière organique. Et donc là maintenant voilà, on fait ça, voilà, on n'a pas besoin d'acheter des produits et de mettre des produits. Il y a de toute façon, il n'y a rien qui est binaire, hein. Il y a pas c'est bien ou c'est mal quoi, c'est il y a des trucs qui ont des avantages et des inconvénients, et après on fait la balance de ça, quoi. Et on s'en accommode ou pas. Et puis, il n'y a plus de désherbage, quoi. Ça n'a rien à voir avec si vous faites de la culture en plein champ, avec les tomates, avec la terre autour qui est travaillée.
Oui, l'herbe est beaucoup plus haute que les tomates.
Donc voilà, et puis c'est en faisant cette expérience-là, moi, la première année, donc on avait fait que des potimorons et tomates. Et on a dit, on va essayer, on va voir ce qu'ils font là-bas, on va essayer. Moi j'ai dit, mais l'année prochaine je double quoi. Et puis peut-être je vais doubler dans l'année. Parce
que si ça fonctionne.
Ça marche, on a moins de contraintes de travail. On n'y a rien fait cette année hein, aux légumes. On n'a pas fait un traitement, même des traitements naturels.
Pierre-Yves essaie sur sa ferme d'être complètement autonome et invente régulièrement des moyens pour y arriver. Jeune paysan, il a pu quelquefois passer pour un uluberlu auprès des autres paysans.
J'allais à cheval des fois au village, aller au tabac, au 8 à 8, faire une petite course. Mais ça surprend, hein, parce qu'on voit des gens se balader à cheval. Mais de là à aller faire leur course avec leur cheval, c'est quand même vachement moins commun. Et oui, je pense qu'il y en a qui m'ont pris pour l'uluberlu du coin. Quoi,
mais... Il y en a qui sont venus vous voir et pour savoir.
Mais après, c'est ça. Après, ça fascine aussi parce que... Alors il y a les anciens que ça leur fait des étincelles parce que ça leur rappelle leur jeunesse, des fois des périodes un peu dures aussi, tout ça. Et puis devant les gamins qui sont émerveillés. C'est plutôt un regard qui est curieux. Et oui, après peut-être je suis comme l'uluberlu, mais c'est pas grave. Si quelque part je peux aussi faire bouger.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. L'utopie d'une époque et la réalité d'une autre, quoi. Mmh. Donc des fois. Moi, je suis bien dans ce que je fais, et du coup, les autres, ce qu'ils en pensent, c'est un peu égal, quoi.
C'était l'émission Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette. pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Sur Bram FM, tous les mercredis à 9h30, les vendredis à 14h et bien sûr en podcast sur bramfm.com. À bientôt.